Vous êtes toujours sur l'émission Passe Muraille, lundi 26 juin. Nous avons écouté le Dur Dur Band, un groupe somalien, pour vous ce soir. Et n'hésitez pas toujours à téléphoner à l'antenne si vous voulez passer des dédicaces ou si vous voulez simplement témoigner ou si vous voulez intervenir durant l'émission. Si vous avez de la famille ou si vous êtes des proches du prisonnier, si vous êtes prisonnier vous-même, alors n'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. À n'importe quel moment, l'émission termine à 20h30. 21h30, pardon. Et on continue. On a un appel qui vient de... Alors, pardon, on ne t'entend pas. Tu peux t'approcher.
L'avènement, non, qu'il y aura un avènement le 8 juillet, qui s'appelle « Femmes face à la prison ».
Oui, oui, alors oui, tout à fait. En fait, il y a, en effet, le 8 juillet, il y a un événement qui est autour des femmes face à la prison. Le 8 juillet 2017, ça se passe à Marseille, à la Casa Consola, 1 rue Consola. Et ce sera à partir de 17h, avec des soirées de rencontres, d'échanges, de débats, autour d'un documentaire anticarcéral collectif filmé récemment au Mexique. Donc ça, ce sera à partir de 17h. Ensuite, il y aura la projection du documentaire « Ils nous ont volé nos nuits ». Avec des paroles d'ex-prisonnières, des mères, des compagnes et filles de prisonnières du Mexique. Ensuite, il y aura 18h30, toujours le samedi 8 juillet, comment la prison s'empare de la vie des femmes. Comment, en fait, il y a aussi l'importance de tisser des réseaux anticarcéraux, des liens solidaires. Et voilà, c'est donc un moment aussi ouvert pour un espace de parole où les femmes sont confrontées à l'enfermement, à l'humiliation, à la maltraitance du corps, à la torture sexuelle, au harcèlement. Voilà, donc il y a cette journée, je le répète, donc c'est le samedi 8 juillet 2017 à la Casa Consola, au 1 rue Consola, à partir de 17h. Et bien sûr, il y aura aussi des concerts de soutien.
Et repas.
Et repas, tout à fait. Repas végétariens et vegan même, en soutien.
Et après, il y avait des invités.
Non.
Oui.
Donc, il y a certaines personnes qu'on a invitées qui ne pouvaient pas venir, mais on aimerait leur faire... Je donner la parole donc là à l'émission Passe Muraille maintenant, parce qu'en fait il y a des histoires un petit peu qui se répètent, qui se refait. Par exemple, t'as Adeline, on m'entend qu'on va parler avec Nadia, donc ouais. C'est les proches des prisonniers. Donc dans cette soirée Femmes face à la prison, on aimerait donner la parole aux femmes, ouais. Et plutôt les proches des prisonniers. Donc c'est-à-dire par exemple dans cette histoire de Adeline et Nadia qui sont assez pareilles. En faisant le soutien pour leurs compagnons, ils confrontent la pénitentiaire et elles entrent dans la lutte anticarcérale, en fait. Non?
Tout à fait. Bonjour. Donc, on accueille voilà. Nadia.
Si Nadia est, il est en ligne.
Oui.
Si tu peux...
Bonsoir Nadia, tu nous entends?
Oui, ça y est. Bonsoir. Je vous entends.
Salut Nadia.
Bonsoir. Tu es à l'antenne?
Bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Bon, peut-être vous poser une question ou
si. Donc, si tu as écouté, si, je ne sais pas si tu as écouté qu'on a fait une présentation de la soirée Femmes face à la prison. Donc, qu'est-ce que tu peux raconter, nous raconter de ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as fait à base de cordes? D'où a parti ta lutte anticarcérale? Et après, on te donne la parole absolument librement. Tu peux raconter ce que tu souhaites raconter.
Merci. Ben, moi, j'en suis venue à me battre contre les prisons. D'abord, peut-être revenir un tout petit peu en arrière, parce que dans la cité où j'habitais, qui s'appelle La Briaude, à Châtenay-Malabry, il y a eu un flic qui a tiré sur un jeune de mon quartier. Et je crois que ça a été le début de ma prise de conscience politique, même si avant, j'ai participé à des mouvements lycéens. J'étais quand même... Bon, j'ai des parents qui étaient politisés. Et donc, le fait de vivre cette violence a fait que je me suis tout de suite investie sur mon quartier pour demander justice pour Nasser. Et c'est quelque chose qui nous a tous énormément bouleversés et qui a laissé une empreinte indélébile pour chacun d'entre nous. Et c'est vrai que du coup, quand mon frère, puisque moi c'est mon frère, a commencé à braquer, hein. Donc du coup il s'est fait arrêter et pour moi ça a été un basculement parce que à partir de ce moment-là il y a quelque chose qui se joue de l'ordre de l'affectif, de l'intime, en plus de la conscience politique, quelque chose de qui nous prend complètement et qui fait que j'ai eu besoin, mais vraiment un besoin complètement vital d'aller rencontrer, moi je suis en banlieue, donc d'aller sur Paris, puisque je savais qu'il y avait des collectifs qui se battaient contre les prisons, donc de rencontrer ce collectif, puisqu'avant ça s'appelait, il y avait un petit comité qui s'appelait la commission anti-répression, et du coup rencontrer ces gens-là pour essayer de comprendre pas seulement ce qui m'arrivait à moi, mais d'en discuter avec d'autres et surtout de voir comment ensemble on pouvait réagir, se battre et puis peut-être aussi comprendre, parce que c'est quand même un gros morceau, la répression, la police, la justice, la prison, c'est quelque chose qui m'arrivait en pleine face et c'était juste énorme. Et à cette époque-là, c'était dans les années 80, début 80, 85, j'ai rencontré un collectif de gens issus de d'histoires politiques un peu différentes. Il y avait des libertaires, des anciens Mao, enfin un peu des gens comme ça différents qui avaient envie de reprendre la lutte, parce que dans les années 80, avec l'arrivée de Mitterrand, tout le monde s'était un petit peu endormi, intégré dans des commissions de travail qui n'est nulle part, l'ensemble des collectifs, des associations, du coup, comme la gauche était au pouvoir, c'était un peu, était rentré chez elle. Et donc, c'était ce contexte-là, et du coup, à une quinzaine de personnes, on a décidé d'abord de créer une émission de radio qui s'appelait Parloir Libre. Comme c'est marrant, des parloirs libres. Et donc, du coup, on faisait 2 heures toutes les semaines pour les prisonniers, en invitant des anciens prisonniers, en essayant de comprendre ce qui se passait. Et il se trouve que, hormis le fait que j'allais bien évidemment au parloir et que chaque instant, je pensais à Gilles, mon frère, que pour moi, le fait de le savoir enfermé dans un cube de béton m'était tout simplement insupportable. C'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Je suis rentrée un peu dans un mouvement. Alors, au début, c'était un petit peu, pour moi, difficile, parler dans un micro, tout ça. Ça a été un long apprentissage. Donc, on était à la fois donc cette émission de radio, et puis on a créé l'association des parents amis de détenus, parce que pour nous, on s'est tout de suite rendu compte que les familles, c'était ces gens qui rentraient et qui sortaient de prison, qui allaient voir leurs proches, qui pouvaient essayer de faire sortir hors les murs tout ce qu'elles pouvaient connaître, savoir, entendre, et puis voir comment les aider, les soutenir, parce que dans les années 80, il y avait énormément de mouvements de lutte. C'était assez impressionnant et c'est finalement maintenant avec le recul, je me dis que Je regrette pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui a marqué ma vie indéniablement, mais quelque chose qui m'a donné aussi beaucoup de force et beaucoup de conscience. Parce que dans ce paysage un petit peu où il y avait une espèce de consensus mou, eh ben, les prisonniers, eux, à l'intérieur, continuaient à se battre, à revendiquer, à se politiser. Et il y avait énormément de luttes, de témoignages. On recevait énormément de lettres à l'intérieur. Il y avait des mouvements de lutte quasiment toutes les semaines. Et du coup, on était pris dans une espèce de tourbillon, de tension extrêmement à la fois dure. Parce qu'on savait que derrière les mouvements de lutte, bah, il y avait des hommes et il y avait des femmes, qu'elles étaient toutes seules, qu'ils étaient tout seuls, enfermés, et qu'ils avaient besoin de nous à l'extérieur pour pouvoir faire sortir leurs paroles déjà, les diffuser le plus largement possible, et puis, tant que faire se peut, essayer d'être devant les prisons quand il se passait quelque chose, informer les familles, être de plus en plus nombreux, faire des actions... essayer de faire savoir à l'extérieur tout ce qui pouvait se passer et comment les socialistes quand ils étaient dans l'opposition étaient opposés au QHS et même les avaient soi-disant abolis, les parloirs libres, plein de choses qu'ils avaient dit qui prendraient en considération, essayer de mettre en avant la prévention et pas l'enfermement, etc. Et nous, on savait par l'intermédiaire des prisonniers que tout ça c'était du blabla et que en fait la réalité elle était qu'il y avait les quartiers d'isolement, on n'en parle pas beaucoup, là c'est vrai qu'on parle beaucoup des QMC et à juste titre il faut absolument en parler, mais il faut parler aussi des quartiers d'isolement puisque dans chaque prison il y a un quartier d'isolement avec une dizaine, quinzaine de cellules où l'administration pénitentiaire enferme les prisonniers les plus revendicatifs. Et du coup, moi, mon frère, comme il était aussi à l'intérieur assez remuant, c'est quelqu'un qui se laissait pas faire, même s'il n'était pas quelqu'un de très politisé, mais ça n'empêche que pour lui, le mot dignité avait un sens, peut-être aussi parce qu'on avait été éduqués de cette manière-là, et quand même, on avait eu une éducation politique. Il y avait des choses qu'il pouvait pas accepter, et moi non plus d'ailleurs. Et du coup, à la fois, il participait au mouvement de grève de la faim. Et quand il y avait des mouvements, il les faisait. Et du coup, il y a que cette lutte tout à coup et que cette histoire de prison, elle n'est pas seulement théorique. Elle n'est pas seulement on détruit toutes les prisons. Elle est quelqu'un que tu aimes qui est enfermé et que tu sais qu'il se bat. Tu sais que pas manger pendant une semaine. Et moi, j'ai vu mon frère en grève de la faim, tout blanc. J'ai vu mon frère pendant 5 ans en quartier d'isolement. J'ai vu au cours des parloirs ce que ça signifie d'être enfermé tout seul dans un cube, de voir personne, comment ses yeux, comment sa peau, comment tout son être s'atrophie. On le vit tout ça. Et c'est vrai que du coup, ça prend une intensité, une force et une réalité tout simplement. Qui dépasse juste l'idéologie ou la théorie quoi. Donc du coup, on a créé aussi un comité pour l'abolition de l'isolement carcéral à l'époque parce qu'il y avait des mouvements hyper fréquents et entre autres, ils reprenaient les revendications des années 70. Donc c'est bien que Christophe ait pu en parler puisqu'on s'est rendu compte que les choses n'avaient pas changé et que c'était toujours la même chose et que les revendications des prisonniers en lutte étaient toujours les mêmes et entre autres qui demandaient l'abolition des quartiers d'isolement qui sont des véritables tombeaux, une véritable torture blanche. Et voilà, on a créé un comité après où on était une cinquantaine avec des familles aussi qui venaient pour à la fois soutenir leur détenus qui étaient dans les quartiers d'isolement et aussi pour se battre pour leur suppression d'une manière beaucoup plus générale. Et c'est vrai que moi, il y a un truc peut-être qui des fois j'ai un peu du mal à comprendre, c'est que moi immédiatement, en tous les cas, j'ai senti que si je voulais vraiment me soutenir mon frère, c'était pas juste être là au parloir, le soutenir, être là, etc. C'était pas juste ça, mais c'était essayer de comprendre et me battre contre la prison en général. Et c'est vrai qu'à travers mon activité aussi, j'ai rencontré des tas de prisonniers par courrier dans un premier temps, puis après quand ils sont sortis pour de vrai, et que du coup, des liens secrets, des liens vraiment extrêmement forts. Et que je me battais pas juste que pour mon frère, mais pour tous ces hommes et ces femmes qui prenaient des grands risques et qui se mettaient vraiment en danger pour tout simplement rester dignes et pour se battre contre ce qui les oppressait. Et tout ça, ça crée une force après. Enfin, moi, je l'ai senti en tous les cas comme ça, qui fait que tu t'investis, quoi, et que t'es avec eux. Parce que tu te bats pour une même chose, pour que ce système il change, et peut-être même que ce système il change tellement qu'on en vienne à se poser l'existence même des prisons comme étant quelque chose d'insupportable, et vouloir construire un monde sans qu'il y ait de prison. Et voilà à peu près, quoi. Et c'est vrai que là maintenant, donc du coup, bon ben voilà, j'étais à Parloir Libre, l'association. Après, en 2000, j'ai créé avec Olivier, que vous avez eu au téléphone, et deux autres personnes, Francine et Afed, Ben Othman, l'envolé. Et bon, voilà, on a essayé de faire ce travail à nouveau d'information, de soutien aux luttes. Moi, j'en suis partie il y a une dizaine d'années et je continue à me battre, mais d'une manière aujourd'hui un peu différente. J'anime une émission quotidienne sur Fréquence Paris Pluriel avec d'autres copains, avec Madeleine et Joël, et puis d'autres copains qui viennent nous rejoindre de temps en temps. Donc, c'est une heure tous les jours d'émission sur les luttes sociales. Nous, on inclut absolument dans les luttes sociales à la fois les luttes sur le monde du travail, mais aussi sur la question du logement, sur la question du racisme, mais aussi sur la question de l'enfermement et de la répression. Donc régulièrement, on a des émissions contre les prisons. Voilà, donc je continue d'une autre façon, et j'essaye de lier les phénomènes. Et je pense que moi, en tous les cas, ce qui a été frappant pour moi dans les années 80, c'est de constater qu'en même temps qu'il y avait de plus en plus de chômage et que les conditions de travail devenaient de plus en plus dures, eh bien l'État avait besoin parallèlement de renforcer son appareil sécuritaire, de construire des nouvelles prisons pour pouvoir enfermer les chômeurs et tous les gens dont elle n'avait plus besoin pour produire, et de tenir tout le monde dans sa main pour les faire marcher droit, comme oui. Eux, ils souhaitent.
Ouais, donc c'est marrant parce que en fait une fois il y avait la mère de José Tarrio qui qu'on l'avait eu une interview une fois, et elle disait à peu près la même chose, tu vois, que en fait voilà, c'est on enferme les pauvres, on enferme, tu vois, enfin une certaine catégorie de personnes, quoi.
C'est ça, et je pense que c'est quelque chose là qu'on oublie trop. Christophe parlait de la nécessité de lier la question de la répression et de l'enfermement au social et à l'économique. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on refasse, parce que qu'on continue ou qu'on fasse, parce qu'on ne peut pas lier seulement l'enfermement à juste des militants ou des gens qui vont en prison suite à des mouvements de lutte, mais bien essayer de comprendre qui sont les gens aujourd'hui qui sont enfermés dans les prisons. Ouais. Et c'est souvent des chômeurs, c'est souvent des pauvres, c'est souvent, tous ces gens dont la société ne veut pas et qui doivent se démerder tant bien que mal. Et il faut vraiment qu'on relie la question de la prison aux autres phénomènes et trouver des liens avec toutes les luttes en général, et inclure la lutte des prisonniers dans ce mouvement plus global. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on s'en sortira, parce que couper et séparer toujours les choses les unes par rapport aux autres, on comprend pas les phénomènes, et en plus on reste isolé, quoi.
Et de ça, exactement de ça dont a parlé Christophe Soulier aussi. Et Nadia, on aimerait absolument continuer à parler avec toi et faire cet échange, mais à mon avis, il faudra revenir à un autre moment, parce qu'il nous reste juste quelques minutes pour parler avec un petit peu d'Adeline aussi.
Et oui, parce que Nadia, tu penses que tu seras là le samedi 8 juillet ?
Mais non, c'est pour ça qu'on a fait.
Voilà, c'est ça qui est triste, c'est que je vais à Notre-Dame-des-Landes. J'étais prévenue un peu tard, et du coup, je vais plutôt à Notre-Dame-des-Landes.
Mais tu te notais déjà pour la prochaine événement de femmes face à la prison.
Carrément, non, avec plaisir. Je trouve en plus c'est très intéressant de le prendre du point de vue aussi des familles, parce que souvent, on se rend compte que dans les parloirs, côté famille, c'est beaucoup des femmes. C'est beaucoup des femmes, des sœurs, des amis qui viennent ouais. au parloir. Et le rôle des femmes contre la prison, c'est vraiment quelque chose, je pense, de très important à mettre en avant. Et ce rôle des familles, parce que c'est vrai que quand les familles ne se battent pas, le prisonnier, il reste seul. Et on a besoin de ce entre-deux pour arriver à faire sortir les informations.
Et voilà l'exemple d'Adeline, que ouais, son compagne, il a eu le soutien parce que c'est elle qui a bougé. Donc, vu qu'on reste, on nous reste juste 4 minutes.
Ouais. Après, on va se faire couper.
Nadia, reste en ligne, comme ça tu entends Adeline aussi. Même tu peux faire un petit dialogue avec elle, peut-être.
Salut.
Rebonsoir Adeline, tu nous entends?
Rebonsoir.
Je t'ai eu au téléphone dans l'actualité des luttes que j'anime. Et bon, voilà quoi. C'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps trop de parler de ton rôle dans toute cette mobilisation. Mais voilà, c'est super qu'on puisse se rencontrer.
Comment?
Ce serait super qu'on puisse se rencontrer.
Rencontrer maintenant. Exact. Donc, Adeline, tu es en ligne?
Oui, je suis en ligne.
Exact. Et qu'est-ce que tu peux raconter? Tu fais des autres choses, tu fais des soutiens, pas seulement le soutien de ton compagnon Roman. Qu'est-ce que tu fais en plus de ça? Si tu peux nous raconter.
Là, on est en train de faire chercher une solution avec Eric, qui est de Paris, pour essayer de faire un petit rassemblement pour un collectif de soutien pour Fabrice Bourmet.
Ouais.
Parce qu'ils sont en train de lui faire la misère, et puis si ça s'arrête pas, ça va aller très très loin cette histoire aussi. Et puis c'est inadmissible de laisser une personne comme ça.
Mmh.
Donc là, on est en train de voir comment qu'on pourrait faire.
C'est une excellente nouvelle. On avait parlé de Fabrice Bourmet lors de la première émission de Passe Muraille.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment quelqu'un contre qui ils
lui ont jeté une bombe assourdissante dans la douche et il n'entend plus d'une oreille.
Aïe.
Et si ça continue, ils vont le tuer, quoi. Si on ne se bouge pas, si rien ne se fait, ils vont le tuer.
Donc aujourd'hui, tu es de ces rares personnes qui, à part de lutter pour son compagnon, pour ses proches, tu as encore la force, je ne sais pas d'où tu prends la force, l'énergie, de lutter encore pour les autres prisonniers.
Mon compagnon incarcéré, je fais mon maximum pour lui en priorité, mais aussi je n'oublie pas tous ceux aussi qui sont incarcérés, qui ont besoin d'aide, de soutien, car beaucoup n'ont plus de famille, n'ont pas de soutien à l'extérieur, et ce qui est beaucoup regrettable. Et si on les laisse seuls, où que ça va aller, quoi. Parce que là, comme le cas de Fabrice, c'est perpétuel acharnement sur lui. Ça devient inadmissible, quoi. On peut pas laisser faire des choses comme ça, parce que c'est des personnes, d'accord, qui sont en prison, qui payent leurs dettes à la société. Mais ils n'ont pas le droit, c'est avant tout des êtres humains, ils n'ont pas le droit de leur faire tout ça.
T'as parfaitement raison. Et du coup, vous organisez ce rassemblement, vous avez une idée de quand ou pas encore?
Avec mon ami, en fait, lui, c'est un ancien détenu et qui maintenant fait partie de plusieurs associations de détenus sur Paris. Il voudrait faire, parce que Fabrice actuellement est sur sa mort.
D'accord.
Et voudrait faire à proximité du centre pénitentiaire de sa mort.
D'accord.
Pour essayer de frapper un peu plus fort et pour être plus entendu, faire voir aussi à l'administration que Fabrice n'est pas tout seul, que dehors il y a des personnes avec des associations solidaires avec les détenus qui sont là, qui sont attentifs à son appel à l'aide. Et donc ça serait bien, même moi, comme je disais, de faire carrément devant le centre pénitentiaire de Saint-Maur. Ça serait quelque chose de pacifique, sans violence, mais faire voir qu'il y a un soutien en France.
Ouais.
J'espère que qu'on aura l'occasion de relayer du coup cet appel à rassemblement. Il va falloir qu'on rende l'antenne parce qu'il y a une émission après nous.
Tout à fait.
Et je pense que Nadia ne manquera pas de le relayer aussi dans l'actu des luttes sur FPP.
Absolument. Absolument.
Merci à toutes les deux.
En fait, quand on commence à rentrer dans le milieu carcéral, que ce soit pour nos maris, frères, cousins ou autres, quand on commence à rentrer dans ce milieu-là, c'est un combat de tous les jours. Parce que moi, je sais qu'en étant femme de détenue, on a une double peine. C'est des doubles peines qu'on prend. Parce que nous, dehors, eux, ne peuvent pas s'exprimer à l'intérieur, mais c'est nous qu'on est obligé de faire leur porte-parole à l'extérieur pour dénoncer ce qui ne va pas. Et moi, jusqu'à la fin, je le dénoncerai.
C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup.
Merci. Et après l'événement de 8 juillet, sûrement, on va revenir à ce thème.
Voilà, du coup, 8 juillet, 17h, rue Consola, c'est au premier,
c'est au Casa Consola, et c'est le 8 juillet, à partir de 17h, jusqu'à, on n'a pas défini d'heure de fin, jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui aient envie de parler de tout ça. En tout cas, merci Nadia, merci Adeline.
Merci à vous.
Merci, et merci pour vos mots, et votre soutien à tous les autres prisonniers, à toutes les personnes qui sont enfermées. Nous aussi, on pense bien à eux tous les jours.
Un grand bonjour à Romain.
Il
n'y a pas de soucis. Il y a la petite.
Voilà, on a grappillé 2 minutes d'antenne, donc on doit vraiment couper. Merci et puis à très bientôt.
À très bientôt. Merci à vous.
Merci.
Merci. Alors, l'émission Casse-Muraille s'est terminée pour ce soir. On se retrouve du coup le prochain. Je sais pas la date exacte, mais en tout cas, ce sera le 4e du mois.
4e lundi du mois.
Voilà.
Voilà, 20h. Et n'oubliez pas que le numéro de l'antenne, c'est 04 91 08 28 10. Et le numéro du téléphone portable de Passe-Muraille, c'est 07. C'est combien déjà le numéro?
07 51 07 80 77. 07 51 07 80 77.
Et bon courage alors à tout le monde, à toutes les personnes qui sont enfermées, à tous les proches.
Et du coup, on se retrouvera le 24 juillet à 20h.
Voilà. Bonne soirée à tout le monde.
On ne prend pas des vacances.